BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine, puisque vous le savez, chaque jour, on vous accompagne jusqu'à midi. Et on commence cette deuxième heure, comme chaque jour, par un survol de l'actualité économique. Et c'est avec Faiza Younzi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younzi.
Les marchés dans l'attente de la décision de la Fed ce soir, équation compliquée pour la Réserve fédérale américaine qui doit choisir entre poursuivre sa hausse des taux et avec quelle ampleur, ou bien faire une pause compte tenu des turbulences du secteur bancaire. Hier, la banque First Republic s'est ressaisie en bourse avec un rebond de 30%. Le Trésor américain lui a tenté de rassurer en se disant prêt à garantir tous les dépôts sans exception. En Europe, après l'annonce de l'acquisition de Crédit Suisse, UBS rachète pour 2,75 milliards d'euros de ses propres obligations, des obligations mise il y a moins d'une semaine. Cette opération est destinée à renforcer la confiance des investisseurs après sa décision d'acquérir Crédit Suisse dans le cadre du plan de sauvetage des autorités helvétiques. En tout cas, ces tensions sur le secteur bancaire créent de nouveaux risques pour l'économie, selon Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, alors que les autorités monétaires tentent de juguler l'inflation. Malgré ces turbulences, le président de la Fédération bancaire française rassure qu'il n'y a pas de crise bancaire en Europe, contrairement aux États-Unis. C'est ce que nous a dit ce matin Philippe Brassac, il était l'invité de Good Morning Business.
Je suis désolé, il n'y a pas de crise bancaire. Il y a des banques qui sont en difficulté, et certaines d'entre elles très lourdement en difficulté, mais ce sont toujours pour des raisons qui leur sont propres. Il n'y a aucune propagation. Si on parle des banques américaines, la banque B n'est pas en difficulté du fait de la banque A, et il n'y a pas de mécanisme de contamination, de contagion dans le système. Qu'il y ait des entreprises bancaires en difficulté localement, c'est évident, mais le fait qu'il n'y a pas de mécanisme de contagion, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de mécanisme, interdit cette appellation très anxiogène du terme crise bancaire. Donc,
Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire française. Au Royaume-Uni, l'inflation réaccélère. Elle remonte à 10,4% sur un an en février, contre 10,1% en janvier. Une accélération surprise. Les économistes s'attendaient plutôt à un ralentissement. Cette hausse des prix est tirée par l'alimentation et par les vêtements. Les prix des produits alimentaires n'avaient jamais autant flambé depuis plus de 45 ans. Après l'alerte sur le climat, l'alerte sur l'eau, une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'État sont réunis jusqu'à vendredi à New York pour le sommet de l'ONU sur l'eau. Une crise mondiale est imminente, nous dit l'organisation internationale, puisque les ressources mondiales s'épuisent. Selon son dernier rapport, les pénuries d'eau tendent à se généraliser. Depuis 20 ans, par exemple, la durée des sécheresses a augmenté de 30%. Dans l'actualité des entreprises, Tencent, plombé par le durcissement réglementaire du régime de Pékin visant le secteur technologique, le géant chinois de l'Internet affiche un bénéfice net en baisse de 16% en 2022 à 25,3 milliards d'euros. Et on termine avec Crédit Agricole et Stellantis qui vont racheter des activités d'ALD et LeasePlan. ALD, filiale de location automobile de Société Générale, cède ses activités dans 6 pays européens. Ça représente une flotte de 100 000 véhicules. Cette opération fait suite à ses engagements pour obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet de rachat de LeasePlan.
Merci beaucoup Faiza. Faiza Younzi pour l'Actu Éco toutes les heures sur l'antenne de BFM Business. Et nous, il est temps de faire un détour sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Des marchés où l'on retrouve Céline Bourban qui nous attend chez Ports en Part. Bonjour Céline.
Bonjour Cédric.
Bon, on attend bien évidemment la Fed, mais avec un peu plus d'espoir que pendant la première heure de cotation.
Oui, bah écoutez, en fait là le CAC a ouvert en baisse hein, ce matin, il reste assez stable, avec peu de mouvement tout de même. Le marché est vraiment dans l'attente effectivement de la réunion de la Fed, mais a aussi été impacté hein, par l'inflation supérieure aux attentes au Royaume-Uni, de quoi peser sur le sentiment général en Europe. Donc au niveau de la Fed, eh bien on verra bien ce soir, il va falloir trouver un équilibre entre l'inflation et l'apaisement de la crise bancaire. Mais difficile en même temps d'imaginer qu'il ne remonte pas très légèrement le taux alors que l'inflation sous-jacente reste élevée.
Voilà donc quelques idées générales sur cette tendance. Après, il y a quelques dossiers sur lesquels vous aviez envie de vous arrêter. D'abord, idée logistics.
Oui, alors ID Logistique a renforcé sa position en Pologne avec l'acquisition de Spedimex, un acteur majeur dans la logistique contractuelle avec une forte expertise dans le secteur de la mode et de l'e-commerce. Donc l'acquisition est positive car elle présente une belle complémentarité au niveau de l'expertise technique et du portefeuille client. Spedimex opère en gros, je crois, 15 sites à travers la Pologne sur un modèle assez asset light comparable à celui développé par ID Logistics. Donc l'acquisition de plus ne devrait pas trop peser sur l'endettement puisque 70% sera payé en actions nouvelles et 30% numéraire. Donc belle opération qui devrait venir consolider la position du groupe en Europe. On maintient notre prix objectif de 400 euros.
Voilà donc pour cette ID Logistics. Et puis vous vouliez avancer sur Life.
Mais oui, parce que Life a publié ses résultats annuels, donc c'est une société qu'on a introduit en bourse l'an passé. Donc globalement, les résultats sont en ligne avec des pertes un peu supérieures aux attentes, mais en raison surtout d'une envolée du taux de recrutement avec des profils seniors, donc plus chers bien évidemment. Donc la société comptait 57 salariés fin 2021 et on en a aujourd'hui 149. Donc la trésorerie nette est bonne, à environ 126 millions alimentés par des subventions. Ils en ont reçu environ 59 millions sécurisés à date. On sait qu'ils en ont touché une partie, mais qu'ils ont aussi reçu une nouvelle subvention de 24 millions au début 2023 qui fait pas partie de la trésorerie. Donc globalement, les bonnes nouvelles viennent aussi surtout du pipeline qui atteint 9,8 gigawatts fin 2022, soit un peu plus du double de celui qui était enregistré en avril 2022. Donc trois sites seront mis en service au deuxième trimestre 2023 pour une capacité totale de 11,5 mégawatts et un autre site également avec la même capacité au premier semestre 2024. Donc globalement, franchement en ligne, plutôt positif sur le business plan qui avait été annoncé à l'IPO. Reste à préciser bien niveau le niveau de demande qui sera mis en place face aux capacités mises en construction, mais on reste confiant et on maintient notre objectif à 10 euros.
Merci beaucoup Céline Bourban, donc Ports-en-Part, qui nous accompagnait ce matin pour vivre au rythme de ces marchés actions. Et nous tout de suite on ouvre Regard Croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Regard Croisé qui accueille ce matin Céline Picmal-Prade. Bonjour Céline.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour Picmal Autumn Investment et Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Pour Financière Arbevel. D'abord, cette question qui taraude un peu tout le monde, y a-t-il un problème bancaire ?
Alors, je peux répondre.
Ouais. Vous êtes d'ailleurs un peu là pour ça.
Voilà. C'est une excellente question et je pense qu'elle en pose une de plus large spectre. C'est y a-t-il un problème tout court ou est-ce qu'à l'inverse, c'est le moment d'y aller ? Et je pense que la réponse aujourd'hui, elle me semble claire, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de prendre, justement de retourner vers ces valeurs bancaires, c'est le moment de retourner vers les sociétés qui souffrent le plus depuis le début de cette année 2023, notamment les sociétés qui étaient en souffrance parce qu'on pensait qu'on allait avoir un retournement du côté de la croissance et qu'on allait aller vers un scénario de récession économique qui allait impacter ces sociétés. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ?
Parce qu'on
a un changement majeur. On a un changement majeur du côté de la liquidité. Comme on le sait, les marchés financiers, ils sont tirés par la liquidité. Et on a coutume de dire « don't fight the Fed ». Et ce qui se passe depuis une semaine, c'est qu'on a un retournement total. C'est-à-dire qu'on avait eu un doublement du bilan de la Banque centrale pendant le Covid. Donc c'était le quoi qu'il en coûte monétaire. Puis, à partir du mois de juin l'année dernière, et on en a tous souffert, on a eu un resserrement monétaire. Finalement, la taille du bilan de la Fed a fait moins 7% depuis juin. Donc c'est pas non plus par rapport au x2. C'était pas incroyable, mais ça a suffi pour avoir un impact. Et sur la semaine dernière, on a gommé la moitié de cette contraction de taille de bilan. Donc on a inversé complètement la donne. Donc en fait, de la même façon que d'un point de vue politique aujourd'hui, on ne veut pas se serrer la ceinture, le message du côté de la Banque centrale, c'est de dire finalement on peut pas. On peut pas aller jusqu'au bout parce que quand ça craque, on veut pas assumer l'impact que ça va avoir le resserrement monétaire sur l'économie réelle et sur les entreprises. Et il faut se rappeler parce que on se souvient beaucoup de Volcker. Mais il y a eu avant lui un autre patron de la Banque centrale américaine qui s'appelait Arthur Burns. On se souvient beaucoup moins. Et ce monsieur, il avait fait quelque chose en 1973. Il avait augmenté les taux d'intérêt de 4,75%. Il avait fait passer de 5,75 à 10,5. Ce qui était, ce qui semblait énorme. Mais 10,5, c'était toujours en dessous du niveau d'inflation. Et à l'époque, on a eu, en octobre 74, la faillite de Franklin National Bank. Puis, en novembre 74, c'est New York, la ville de New York, qui se retrouve au bord de la faillite. Et là, on rétropédale. et on sait ce qui s'est passé derrière. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas réussi. Bon, on avait beaucoup augmenté les taux d'intérêt, mais on n'était pas allé assez loin.
Bon.
Ça a continué. Et donc, du
mais
coup,
donc, derrière, il n'y a pas de problème bancaire. Généralisé.
Donc, du coup, je pense qu'en tous les cas, aujourd'hui, non. On est sur un problème qui va avoir un impact plus tard sur, à mon sens, la masse monétaire, l'inflation. Donc, comme on l'a
connu, on est plutôt sur un problème
financier, mais on n'est pas sur un problème du côté du secteur bancaire. On n'est pas du tout en 2008.
D'accord.
Pour moi, on est beaucoup plus en 1974.
Thibault.
Ah, c'est le problème, c'est la difficulté.
Est-ce qu'il y a un problème bancaire?
Ouais, il y a un problème, bien sûr, mais il y a un problème, mais il y a surtout, mais parce que quand le marché dévisse comme il l'a fait et qu'on a des banques qui sont les plus grosses européennes sauvées le week-end, on peut quand même pas complètement dire qu'il n'y a pas de problème. Pour autant, est-ce qu'on n'est pas plutôt parfois sur une solution que sur un problème? Alors, effectivement, les Suisses ont fait un peu n'importe quoi pour des raisons un peu bizarres de structure de capital, mais on va pas rentrer dans le détail qui est un peu technique. Je vais juste revenir pour expliquer aux auditeurs et en essayant de le faire simplement, quel est le problème d'une banque aujourd'hui? Une banque a un fonctionnement qui est simple, qui est de dire, vous déposez votre argent sur des comptes bancaires, sur votre compte courant, et la banque prête cet argent. Alors beaucoup de gens disent c'est choquant, pourquoi ils spéculent avec mon argent? Mais si vous faites un calcul idiot, vous dites par exemple qu'il y a en moyenne 100 000 euros de dette immobilière par français, vous multipliez ça par 80 millions, vous arrivez à 10 000 milliards. Et vous savez que pour trouver 10 000 milliards pour vous prêter de l'argent, si on n'a pas ce schéma des dépôts qui financent des crédits, qui recréent des dépôts, qui recréent des crédits, on ne peut pas le faire. Et donc qu'est-ce qu'on dit aux banques? On dit aux banques, vous devez avoir de la liquidité. Donc ils ont un certain nombre de ratios qui vérifient qu'ils ont des ressources pour pouvoir faire face à des retraits, et de la solvabilité, c'est-à-dire prendre des risques limités pour pas être trop en danger. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, quand vous avez un risque de solvabilité qui est imaginaire dans le crédit suisse ou qui est réel, tout le monde va prendre son pognon et le vire. Et du coup, là, vous avez un problème de liquidité. Et quand vous avez un problème de liquidité, vous devez vendre des trucs, et quand vous les vendez en panique, vous le vendez pas bien, et si en plus le marché a baissé sur les emprunts à l'État, vous le vendez forcément pas bien. Là, il y a deux types de boîtes. Il y a les boîtes petites américaines qui n'ont pas compté en temps réel ses pertes. Donc ils font de nouvelles pertes et ça crée une spirale. Il y a les banques européennes
qui étaient moins supervisées.
Voilà.
Et vous avez les banques à leur demande d'ailleurs.
Et vous avez les banques européennes qui n'ont pas de sujet. Donc ça c'est un premier point. Et après vous avez ce côté séparation banque d'affaires, banque de détail. Les banques de détail, on peut penser à des groupes comme Crédit Mutuel ou autre, il y a pas de sujet parce que en fait comme ils font pas de trucs délirants hors bilan, personne n'est vraiment inquiet. Sur d'autres sociétés comme Deutsche Bank ou Crédit Suisse, il y avait cette inquiétude. Et des faits, Crédit Suisse a pété avec des ratios qui étaient en théorie hyper tranquilles. Et par exemple, peu de gens savent que la plus grosse banque de dépôt en Suisse c'est Raiffeisen. C'était pas Crédit Suisse ou UBS. Et personne n'en entend parler. Donc, il y a ce sujet-là. Et donc, pourquoi on en arrive à un problème? On arrive à un problème qui est très simple, qui est que la théorie qu'on a imaginée depuis 2010 n'existe plus. Quelle est cette théorie? Cette théorie, c'est de dire les banques centrales n'ont pas que les taux pour régler leur politique monétaire. Ils ont un mélange de taux et d'éléments non conventionnels. Et en fait, l'élément non conventionnel a largement pris le pas sur la politique de taux, avec des impacts beaucoup plus élevés. Et aujourd'hui, les banques centrales sont confortables à dire on va monter les taux, mais dans le même temps, on va donner des liquidités pour les aider, des TLTRO, des machins, plein de sigles, et donc on va être bon. Et là, on se heurte à le mur de la réalité qui est qu'à un moment, ça marche plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut être très accommodant avec les banques, on est plein de liquidités. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites vos taux sont à 3,5 ou à 5,5, que font les gens qui ont un peu d'argent sur leur compte courant? Ils disent, non, mais je vais le mettre ailleurs, je vais le mettre dans un fonds monétaire. Comme ça, je vais avoir de l'argent. Et donc, en fait, les taux hauts des banques centrales viennent siphonner les dépôts. Dans le même temps où on donne des dépôts aux banques. Donc on voit bien que ça se mord complètement la queue.
Mais est-ce que dans ce contexte-là, on peut vraiment dire « je vais garantir tous les dépôts » C'est ce que disent les autorités américaines, finalement.
Oui, mais ce n'est pas tellement un problème de garantir tous les dépôts. Je veux dire, ce n'est pas un sujet, parce que quelque part, quelqu'un qui met de l'argent dans une banque, l'idée qu'il ne va pas le perdre, c'est une des bases du système. Alors avant, on disait effectivement jusqu'à 100 000 euros, parce que tout le monde avait des dépôts à 50-60 000, mais quelle était l'idée? L'idée était de se dire que, vous vous souvenez peut-être des films Mary Poppins, où vous avez tout le monde qui dit « oh là là, il y a un drame, on a entendu un truc sur la banque, tout le monde part au guichet, prend son argent et la banque saute ». Bon, c'est les petits mouvements qui créent ces mouvements-là. Donc garantir les petits dépôts, c'est dire à des gens, quand il y a un sujet, vous ne ruez pas à la banque, ça ne sert à rien. Donc c'est une idée, on va dire, suffisante pour rassurer sur les dépôts. Mais, dans toutes les faillites bancaires qu'on a eues, il n'y a jamais eu de problème sur les dépôts. La seule fois où on a piqué des dépôts, c'est à Chypre, parce qu'on savait que c'était les oligarques américains qui avaient planqué du pognon, donc ça a rangé tout le monde. Mais il n'y a jamais eu de prise des dépôts. Russes, pardon, excusez-moi. Oui, c'est malvenu.
Je m'étais gouré de l'oligarque.
Exactement. Le point étant de dire que les dépôts sont toujours un peu tacitement sécurisés. Là, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On a récupéré le Crédit Suisse, on a donné de l'argent aux banquiers tout en prenant un obligataire, ce qui n'existe pas en termes européens ou américains, mais on a une belle créativité de nos amis suisses. Pour autant, je pense que les deux gros enfants malades qui étaient la Deutsche Bank et la Crédit Suisse ont été traités de manière différente. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le secteur pose de problèmes graves. En revanche, c'est vrai qu'on garde cette idée que tous les X ans, il y a un problème sur les banques, donc ça donne une thèse d'investissement qui est quand même assez chaotique sur le long terme.
Céline, chaotique là.
Pour compléter.
Sur le long terme, ça diffuse moyennement. Sur le court terme, je ne sais pas.
Je suis complètement d'accord sur le long terme. Mais sur le court terme, à mon sens, ça donne quand même un point d'entrée extrêmement intéressant. Parce que du coup, comme on le lit, on est en train de dire que que quoi que vous fassiez, c'est bon, on va vous protéger, puisqu'on a retenu les leçons de 2008. Et du coup, on se retrouve, et on est dans une situation qui est totalement différente, parce que quand même, on avait tiré les leçons. Il y a une situation en Europe qui est différente de la situation qu'on peut connaître sur les sociétés de taille moyenne aux États-Unis. Et on a des banques, on parlait des banques de détail à l'instant, des banques de détail en Europe qui profitent pleinement de cette situation parce qu'en fait, paradoxalement, quand on a une panique, qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers le gros. On avait une concurrence de la fintech, par exemple. On va avoir des dépôts qui vont de plus en plus massivement vers des crédits agricoles, vers des banques solides qui sont perçues comme étant un refuge. Et ces sociétés-là, elles avaient déjà profité des 15 dernières années pour prendre des parts de marché colossales. Crédit Agricole, c'est 33% de parts de marché sur la banque de détail en France. Donc, est-ce qu'on pense vraiment qu'à 0,5 fois la book value pour une banque qui a 33% de parts de marché dans la banque de détail, on n'a pas un point d'entrée? Moi, je pense que c'est un point d'entrée très intéressant aujourd'hui de rentrer sur une banque de ce type-là. Voilà. Donc, je pense que vraiment, on nous dit, le message qu'on nous fait passer, c'est ne vous faites pas de soucis,
bon.
On ne va pas resserrer plus que ça. Et si on ne resserre pas plus que ça, ça veut dire qu'on peut continuer à jouer, mais ça veut dire aussi qu'on va avoir une autre problématique qui va se poser, parce qu'on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. On va avoir une problématique qui va se poser, c'est qu'on va rester dans un monde dans lequel les taux d'intérêt sont plus élevés et dans lequel l'inflation est plus élevée. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qu'il va falloir. On a un petit peu mis sous cloche.
Mais ça veut dire que la finance telle qu'on la connaît, elle peut en sortir indemne de toutes ces questions?
Non, pas du tout. Parce que ça veut dire qu'effectivement, on va avoir une autre problématique qui va se poser avec nos clients, par exemple, en tant qu'investisseurs. Ça va être votre retour, non pas nominal, mais votre retour réel. Et depuis 40 ans, on ne s'est pas posé la question de son retour réel. On est sur le taux de retour nominal. Mais souvenons-nous, encore une fois, donc dans les années 70, les marchés financiers, finalement, ils ont fait zéro en termes nominal. Donc, pourquoi pas? On se dit, c'est pas une catastrophe. Mais en termes réels, si on prend en compte l'inflation, on a eu des retours globalement qui étaient difficiles. Mais dans le même temps, vous avez fait x10 sur l'or, par exemple. Vous avez fait une performance très belle sur des sociétés qui détenaient des actifs réels et sur des sociétés qui ont profité de cet environnement-là. Donc, il faut vraiment, à mon sens, réfléchir au nouvel environnement qui est en face de nous. On nous envoie des signaux, c'est pas le même. Voilà.
La finance, elle se sort de tout ça indemne ou il va falloir effectivement la repenser?
Alors déjà, tous les marchés se repensent tout le temps. Enfin, je veux dire, on le voit au moment où on a dit la technologie c'est fini, nous sortent des chats GPT qui sortent des trucs qui vont révolutionner certains métiers. Hein. C'est assez évident. Donc on sait qu'on est tout le temps en train de se réinventer. Moi, je dirais juste une chose qu'il faut avoir d'expérience. C'est que ce qui crée une crise, c'est une situation inhabituelle et une réponse pas adaptée, comme on l'a eu en 2008. Et donc, par définition, quand on connaît les réponses, les crises ne se font pas. C'est pour ça qu'en 2001, on a eu cette crise de la tech. Tout le monde nous a revendu une crise de la tech en 2005-2006 qui n'a plus jamais existé. En 2008, on a une crise bancaire. Tout le monde nous a revendu en 10, 11, 12, 15 que les bancaires allaient sauter, ce qui n'est jamais arrivé. On nous a vendu ensuite du Frexit, du Grexit, du je sais pas quoi, Exit, ce qui n'est jamais arrivé post-Brexit. Et ensuite, maintenant, on nous a parlé de nouvelle pandémie. La réalité, c'est que ce qu'on voit très rapidement, c'est que on sait ce qui a merdé en 2008, et du coup, dans les réactions des banques centrales et autres, il y a toujours une réaction très rapide. Et donc, je pense que la prochaine crise, il y en a quelque chose qu'on ne verra pas venir, parce que c'est un accident climatique ou autre, en tout cas qu'on ne verra pas venir de manière instantanée, même si on a l'idée. Donc, cette idée de la nouvelle crise financière, alors qu'on a des problèmes qu'on connaît et qu'on sait traiter, quelque chose qui ne me convainc pas. Après, en finance, quel est le sujet? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas de consensus pour savoir ce que devient l'inflation. Le consensus de marché, c'est on revient vers 2. Il y a des acteurs qui pensent qu'on va plutôt revenir vers des risques de déflation compte tenu de la démographie. Il y a des acteurs qui pensent qu'on est dans un nouveau monde et que l'inflation part jamais aussi vite. Et là-dessus, il faudra se réinventer en fonction de ce qui se passe. Et on le voit depuis 6-9 mois, ce qui se passe change très vite. Et on n'a pas de certitude. Donc ce qu'il faut, c'est être très réactif. En revanche, il est sûr que l'obligation de se réinventer systématiquement, c'est quand même devenu un peu la norme pour les sociétés financières, dont le paysage varie très vite. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui rendent les choses difficiles. Comme pour d'autres secteurs type automobile où là encore on change un peu de paradigme tout le temps. Malheureusement, je crois que c'est un peu le new normal, il va falloir s'y habituer.
En attendant que tout ça change et qu'on s'habitue, il y a quand même nos grands classiques, nos banques centrales. On va avoir la Fed tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette réserve fédérale? La question, elle se pose un petit peu aussi pour... Enfin, elle se posait la semaine dernière aussi pour la BCE, parce que c'était un peu au moment où tout était le plus chaud. Et pourtant, Christine Lagarde est restée droite dans ses bottes. Elle a mis les 50 points de base qu'elle avait annoncés. Ouais, mais Powell aussi nous avait quasiment annoncé 50 points de base devant le Congrès.
C'est pour ça qu'à mon sens, le plus important, c'est ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que c'est la taille du bilan dont je vous parlais à l'instant. Le message, il a déjà été donné, il a été compris par les marchés financiers.
Ce que va dire
M. Powell, pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on a fait. on a montré qu'on pouvait gommer en une semaine 6 mois de resserrement monétaire. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire on ne veut pas aller jusqu'à assumer les conséquences d'un resserrement monétaire qui a été massif. Hein. C'est pour ça que je fais le parallèle avec 74. Une augmentation qui était pratiquement de 5 points sur les taux d'intérêt, c'est énorme. Donc on a eu un resserrement monétaire massif en 2022 qui a plongé les marchés actions dans l'effroi et qui a entraîné le bear market qu'on a connu en 2022 puisqu'on a fait 25% de baisse sur le SP500 en dollars entre le plus haut et le point bas. Donc on a déjà eu la conséquence de ce resserrement monétaire. Et maintenant, on voit qu'on ne veut pas aller plus loin. Voilà. Donc on est en train de nous dire, à partir du moment où ça craque, c'est bon, on arrête. Donc on est en train d'arrêter, on est en train de changer la donne. Et c'est ça, à mon avis, le signal qui est important. Et comme disait Thibault, il faut être agile.
Ça veut dire que là, c'est la fin du cycle de hausse de taux de la Fed.
Il faut, en tous les cas, ça veut dire qu'il faut réagir à ce signal en se disant, les marchés, il y a certains types de sociétés qui ont beaucoup souffert depuis 3 semaines, 4 semaines, depuis le début de l'année. Ces sociétés-là, moi, je pense que c'est un point d'entrée exceptionnel pour les 5 prochaines années. Il faut le saisir maintenant. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui, parce que souvent j'ai tendance à être très pessimiste, mais là il y a vraiment des choses que je vois qui me semblent, ce sont les soldes. Voilà, sur des sociétés de qualité. On parlait de Crédit Agricole à l'instant, à 0,5 fois la book value avec un dividende de 10%, ou sur du Michelin à 8 fois, ou du Nexans à 12 fois les profits, alors que c'est une société qui va avoir une croissance phénoménale parce qu'il faut qu'on électrifie la planète. Je pense que ce sont des dossiers sur lesquels on a un point d'entrée exceptionnel, ou même sur du Total. Voilà. Donc je pense qu'il faut y aller. Il y a des moments où il faut savoir qu'il y a un point d'entrée. Et par contre, c'est pas revenir sur les sociétés d'hier.
Les boîtes chevillées au corps. Hein.
Voilà. Non, mais parce que je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est quand même en train de se passer.
On est passé de la Fed à Michelin, là. On a été. Voilà.
Mais il faut le dire. Faut le dire. Parce que souvent ici, on a tendance à être négatif. Donc faut dire que c'est des choses à dire.
La Fed, il faut comprendre qu'en théorie monétaire, hein, si on veut être un peu basique, ce qui crée l'inflation, au-delà des phénomènes comme le Covid, qui sont des phénomènes totalement atypiques, c'est le mélange d'une quantité de monnaie et de vitesse de circulation de la monnaie. C'est ce qui crée l'inflation. La quantité de monnaie, on l'a vu, c'est des quantitative easing, mais ça s'est fait avec, en donnant de l'argent aux gens qui remettent à la banque centrale le soir. Donc en fait, ça n'a pas vraiment créé d'inflation. En revanche, quand vous dites les taux, ils vont plus être à 0, ils vont être à 5, bah, les gens ont tendance à ce qu'on appelle parquer leur cash, comme diraient nos amis québécois, en disant bah ça rapporte, du coup leur argent circule plus, ils le dépensent plus, ça fait pas un cycle où ils le dépensent à d'autres gens qui le dépensent, ainsi de suite. Et donc ça, c'est plutôt déflationniste. Et la réalité, c'est qu'une crise bancaire, une crise de confiance sur les dépôts, ça a exactement le même rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont pas en train de se dire allons-y à tout le bas, créons des sociétés, investissons, ils sont en train de se dire on attend, on regarde ce qui se passe. Donc l'argumentaire que les banques, que beaucoup de banquiers ont déjà déployé, hein, depuis une semaine, c'est de dire, y compris en Europe, probablement que la crise en cours fait plus de job que remonter les taux de 0,25 ou 0,50, et elle fait aussi.
Donc
plus
on s'achemine vers la fin du cycle de hausse de taux.
Il est assez clair aujourd'hui qu'en tout cas, on serait probablement dans des risques très asymétriques à encore monter les taux alors qu'il y a déjà des sujets bancaires, et que le risque qu'il y ait un dérapage, que tout le monde dépense de manière frénétique pour les 3 prochains mois paraît assez limité, et donc assez vraisemblable que la Fed, qu'elle décide de refaire 0,25 pour acter un peu ou qu'elle se calme après, au final c'est pas tellement le sujet.
Oui,
mais l'idée qu'on puisse retrouver des 1 ou 2 points de hausse de taux supplémentaires, comme on l'a eu à chaque fois qu'on avait l'impression d'être pas loin du plus haut, je pense que c'est aujourd'hui clairement derrière nous. Et je pense que c'est vrai aux États-Unis comme en Europe. D'autant plus aux États-Unis que l'inflation baisse, c'est toujours un peu moins confortable en Europe quand même.
Malgré tout, dans tout cet argumentaire monétaire aussi, il y a la question du crédit et donc de l'investissement. Toutes les boîtes que vous citez, etc. On a l'impression, depuis quelques jours, que la clé de discrimination dans sa gestion action, c'est la dette, justement. De dire toutes les boîtes qui vont être capables de ne pas être concernées, entre guillemets, par ces problématiques-là, on peut y aller franchement, alors que les autres levons le pied. C'est ça aussi
Exactement. C'est exactement ça. C'est qu'on est vraiment en train d'arriver dans un environnement où on va avoir d'un côté les sociétés qui ont une dynamique porteuse parce qu'il y a une croissance structurelle qui joue en leur faveur et parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller chercher du cash sur le marché. Et vous avez de l'autre côté les sociétés qui ont besoin de sources de financement. Et pourquoi est-ce que ça a explosé du côté de SVB? C'est quand même Silicon Valley Bank. Parce que vous avez en face de vous justement des sociétés de la technologie qui ont besoin de cash pour progresser, parce qu'on leur a expliqué que leur business model, il était basé sur le fait qu'il fallait toujours devenir plus gros, plus vite. Donc on n'attend pas d'atteindre la rentabilité pour croître. Donc ce sont des modèles qui sont basés sur un financement facile.
Sur un financement permanent.
Voilà. Donc du coup, c'est à mon sens de ce côté-là qu'on va avoir des problèmes, parce que, et c'est ce qu'on voit, c'est que là, c'est un petit peu la fin de la fête pour les sociétés qui avaient besoin de se financer en permanence. Mais des sociétés comme Total ou Michelin ou des sociétés comme Nexans, il n'y a pas de problème. Ce sont des sociétés qui ont des parts de marché qui sont énormes, qui sont en situation d'oligopole, qui vous proposent des produits sur lesquels il n'y a pas d'alternative. Et donc ces sociétés-là, elles sont en position de force. Donc on va vraiment, à mon sens, avoir ces deux catégories de sociétés, et c'est sur la première catégorie qu'il faut se positionner.
C'est une conviction que vous partagez, le fait qu'on discrimine maintenant par ce besoin de financement, par cette exposition à la dette ?
On l'a quand même toujours un peu fait, parce que le fait que les dettes repassent de zéro à des taux beaucoup plus élevés, c'était quand même déjà un facteur. C'est-à-dire qu'on a quand même des taux de financement qui n'ont plus rien à voir. Donc c'est des choses qu'on a aussi regardées. Et puis de la même manière, quand les marchés ont beaucoup baissé, et c'est aussi un argumentaire fort pour ceux qui soutiennent les GAFAM, le fait d'avoir parfois des positions de cash quand on prend Apple, quand on a parlé de 100 milliards, c'est aussi des capacités à ramasser dans des périodes compliqué. Donc le sujet du passif comme de l'actif est un sujet qui est extrêmement important. Je pense qu'en réalité c'est un sujet qui l'est quasiment toujours. Depuis une semaine, il est plus scruté. On a des clients qui nous demandent les endettements, les situations de beaucoup de sociétés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi un peu un serpent de mer. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que dans 3 mois, ça passionne complètement les foules. Mais c'est quand même un sujet. C'est-à-dire qu'on le voit bien, des sociétés endettées qui ont besoin de lever de l'argent. On a vu par exemple Neoen, qui est une boîte qu'on aime bien, mais qui a besoin de lever de l'argent pour accompagner la transition. Bah, le fait de devoir lever du capital ou d'être pas mal endetté, même si c'est pour des projets très visibles, etc. Il y a des périodes où ça plaît beaucoup au marché. C'était le cas jusqu'à début 21. Oui, il y a des périodes où c'est moins sexy. Après, voilà, c'est une réalité qui est assez évidente, avec quand même parfois aussi un petit côté serpent de mer, parce qu'il y a quand même un peu toujours ce retour de la qualité de bilan. Mais ce qu'on voit quand même malgré tout, c'est que la surperformance des sociétés peu endettées est quand même durablement assez significative.
Merci à tous les deux d'avoir participé à Regard Croisé ce matin. Richesse des échanges, et je vous en remercie. Céline Picmal-Prade pour Picmal Auton Investment et Thibaut Prébet pour Financière Arbevel. Dans un instant, on file sur les marchés et on va voir ce qu'on en pense du côté de boursicoté.com. On se retrouve dans un instant.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, pour débuter cette dernière demi-heure, on file sur le marché. Et c'est Gilles Santacreux qui nous attend chez boursicoté.com. Merci Gilles d'être au rendez-vous et de suivre pour nous cette matinée en bourse, le marché parisien. Bah, qui grignote un peu de terrain. Bon, on ne s'est pas beaucoup éloigné du niveau de clôture d'hier soir, puisque la hausse est de 0,2-0,3%. Mais malgré tout, on évolue maintenant du bon côté de la barrière, on va dire, alors qu'on avait ouvert sous la ligne de flottaison.
Oui, mais on évolue, c'est poussif quand même, hein. On n'a pas énormément de convictions. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sorti d'une dynamique baissière sur un gap de rupture. Normalement, ce type de configuration est assez puissante et malgré tout, malgré la hausse que l'on a constatée hier, eh bien, il n'y a pas de relais. Alors, on est toujours dans cette séance d'attente, hein. Ce qui va débloquer certainement la situation, c'est la Fed et donc les communications sur les taux de la Banque Centrale Fédérale Américaine ce soir, pardon. On attend donc le consensus stable sur 25 points de base. On peut avoir une surprise, hein, à l'image de la communication qu'a eue Christine Lagarde la semaine dernière. La Fed pourrait très bien dire, bah, le secteur bancaire est sous contrôle, donc on garde un petit peu notre cap. Et il peut effectivement y avoir donc de la volatilité ce soir, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on est sur un rebond qui est essentiellement technique. On n'a pas encore totalement validé la sortie de la tendance baissière dans laquelle nous sommes depuis quelques jours, et il va falloir attendre un petit peu que tout ça se décante, hein. Donc j'indiquais des niveaux tout à l'heure. Tant qu'on reste sous les 7200 points, eh bien on est dans un secteur un peu fragile qui peut laisser la porte ouverte à une reprise d'une dynamique baissière. Alors, On a d'autres éléments à surveiller. Moi, au niveau de mes algorithmes, on est tout à fait sur ce schéma, c'est-à-dire un rebond technique limité qui pourrait laisser la place à une reprise d'un mouvement baissier fin de semaine, voire début de la semaine prochaine. Sur les autres actifs, on observe une hausse donc de la paire de devises euro-dollar qui vient de repasser au-dessus des 1,0780, qui était une résistance mineure. On est en train de valider ce niveau comme niveau de support. On a l'or aussi qui donne des signaux intéressants de reprise d'une dynamique haussière possible. On a testé un premier dépassement des 1960 $ l'once. On est venu sur le secteur psychologique des 2000. Là, on consolide. On est aux alentours de 1940. Si on repasse au-delà des 1960, eh bien, ça sera la porte ouverte à un retour sur le niveau historique du métal jaune autour des 2070 $ l'once. On assiste aussi à une baisse du pétrole. Le Brent donc est passé sous résistance des 75 $ le baril, le WTI sous 70. On vise des baisses qui peuvent encore eh bien aller jusqu'à 70 pour le Brent et 65 pour le WTI. Ce sont des éléments, tout ça, qui changent un petit peu par rapport à ce que nous avions ces dernières semaines et qui laissent à penser qu'on est tout de même sur une phase d'hésitation, voire d'inquiétude au niveau des marchés globalement.
Eh bien, voilà quelques impacts ou considérations graphiques, techniques sur ce marché. Merci beaucoup, Gilles. Gilles Santacreux et boursicoté.com qui nous accompagnait ce matin. Le CAC, lui, est à 7130 points. Il progresse de 0,25% avec un rebond essentiellement sur les valeurs financières. L'eurodoll est à 1,0782.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Matières à réflexion qui accueille ce matin Guillaume Pitron, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes journaliste et auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et on vous accueille pour parler de ce lithium, de ce cobalt, de ces terres rares, de ce tungstène, de l'antimoine, bref, de tous ces métaux rares. Où les trouve-t-on d'abord, ces matières premières?
On les trouve partout.
Partout.
Elles sont pas forcément rares.
On dit souvent,
rares,
on a souvent l'idée que on les trouve en Chine.
Ah oui. Alors, d'abord, elles sont pas forcément rares. On les appelle rares parce qu'elles sont très diluées dans l'écorce terrestre pour certaines d'entre elles. Donc, il faut creuser très profondément pour pouvoir obtenir une quantité souhaitée. On en trouve partout sur Terre. On en trouve au fond des océans. On commence à en découvrir sur la crête des astéroïdes. Mais comme leur production, l'extraction, le raffinage peuvent être des processus très polluants. Mm-hmm. On laisse généralement à des pays pauvres, en voie de développement, avec des réglementations environnementales moins strictes que les nôtres, faire le boulot d'extraction et de raffinage à notre place. Donc c'est pour ça que la production est concentrée dans certaines zones géographiques, et vous avez mentionné la Chine, qui assume cette production pour le reste du monde. Donc c'est une organisation géographique de la production qui nous a bien arrangé jusque maintenant, nous, pays occidentaux, parce que ça nous permettait de pas polluer notre environnement à nous, de laisser les autres se polluer à notre place.
Bon. Donc là, on était content, et puis aujourd'hui...
On est moins content.
On est moins content, on finit par se dire, ouf,
bon, on est moins
ça pourrait coincer, quoi.
Parce qu'en fait, Ursula von der Leyen est intervenue au Parlement européen, c'était en septembre dernier, et elle a parlé, enfin, du lithium et des terres rares. Pas de batterie de voitures électriques sans lithium et pas de moteurs électriques, la plupart des moteurs de voitures électriques sans terres rares. Donc en gros, pas de transition énergétique sans ces métaux et elle en parle comme étant le prochain pétrole. Elle dit ça va être, ces matériaux vont être aussi importants que le pétrole et le gaz. Et là tout d'un coup, mais où est-ce qu'on va aller chercher ces matériaux? Où se trouvent-ils? Et ils se trouvent pas, enfin je veux dire, c'est pas en Europe qu'on les extrait, donc il y a une dépendance.
Donc les produits, on a dit la Chine, mais il n'y a pas que la Chine?
Alors, la Chine, pour l'extraction et le raffinage de ces deux matières premières qu'on a évoquées, la Chine extrait peu de lithium, mais en revanche, va chercher le lithium, notamment au Chili et en Australie, va le raffiner sur son territoire, donc in fine, tous les chemins mènent à Pékin. Et puis après, vous avez d'autres métaux qui sont intéressants et qu'on se trouve ailleurs, comme par exemple le cobalt, qu'on va extraire notamment en République démocratique du Congo. Le nickel est un métal très important pour la transition énergétique, c'est un composant des batteries, or c'est en Indonésie en particulier qu'on le trouve, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. On pourrait mentionner le Chili pour le cuivre et le lithium, la Bolivie pour le lithium, peut-être demain le Mexique pour le lithium également. Le Canada est en train de devenir un pays très important qui est en train de monter en puissance sur la partie extractive de ces matériaux. Voilà, donc vous voyez qu'on est en train d'assister aussi à une diversification de nos approvisionnements à l'avenir.
Vous avez pointé le coût environnemental.
Oui.
Alors il y a quelques images qui tournent pour ceux qui nous suivent aussi en télé. C'est vrai qu'on a tous ces images d'immenses mines à ciel ouvert. Enfin, quel est exactement ce coût environnemental?
Alors il faut savoir que d'abord une mine c'est jamais neutre. D'où le paradoxe de parler de technologies vertes qui ne sont pas réellement vertes, puisque sans mine, il n'y a pas de technologie verte. Or, une mine, ça a un impact. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la transition énergétique, non, non. Mais il faut quand même avoir conscience de cet impact.
D'où l'idée que commencent à réclamer certains qu'on prenne le bilan total.
Il faut faire ce qu'on appelle une analyse
de
cycle de vie.
Oui, voilà.
Une ACV, comme on dit, c'est-à-dire regarder la pollution de toute technologie verte depuis la mine jusqu'à la décharge. La mine, c'est une consommation d'électricité pour transformer le minerai. Donc, d'où vient l'électricité? Si elle vient du charbon, vous produisez un métal de la transition bas carbone grâce à de l'énergie, enfin de l'électricité qui est produite avec du charbon. Paradoxe. Il faut de l'eau aussi pour la mine. Donc, il y a une consommation d'eau. Donc, ça également, c'est une pollution. La mine, c'est un impact sur l'eau, sur les ressources aquifères. C'est un impact sur les sols. Ça peut avoir un impact sur l'acidification des océans. C'est de la toxicité. C'est un impact sur la biodiversité. Donc, ce ne sont pas forcément à l'arrivée des impacts CO2. Là, peut-être que sur ce poste de pollution-là, qui est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, évidemment, ça peut avoir un impact moindre. En revanche, il y a d'autres pollutions, d'autres impacts qui, eux, doivent être pris en considération, qui vont peser toujours davantage à l'avenir. Donc la mine propre, c'est un leurre, quoi. Ça n'existe pas. Ça a forcément un impact.
Justement, une fois qu'on s'est dit il faut décaisser des tonnes et des tonnes de terre pour obtenir tout ça, on peut imaginer, que vous nous avez cité Ursula von der Leyen, que l'Europe se mette... on a quelques pistes, en France notamment, par exemple, sur certains métaux.
On fait plus que l'imaginer, ça y est, c'est lancé, et heureusement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de souveraineté. C'est pas seulement un enjeu d'écologie, c'est un enjeu de souveraineté. Si on n'a pas ces matériaux, il n'y aura pas de transition.
Mais donc, voilà. On va être obligé d'avoir... tous ces travers que...
Non, parce que je... Alors, en partie, évidemment, hein, mais pour autant, la mine en France, ce sera jamais Germinal. On vit dans cet imaginaire de Germinal, mais non, ça ne sera pas non plus le cas, c'est fini, cela. Donc la mine, il faut la relocaliser, notamment en France, pour pouvoir produire pour nous-mêmes, parce qu'il y a des enjeux de souveraineté minérale, et puis on fera mieux chez nous que si on fait ailleurs. Si on laisse les Chinois faire, c'est sûr que nos performances environnementales seront indexées sur les performances environnementales chinoises. En revanche, si on décide de produire ce propre minerai nous-mêmes, alors on fera moins mal, mieux, et donc le coût environnemental des technologies vertes sera abaissé. Et qu'est-ce qu'on trouve en France? Plein de choses. Du tungstène, du cuivre, de l'antimoine. La France a été un géant de l'antimoine il y a 100 ans. C'était le premier producteur d'antimoine au monde. Personne ne le sait. Mmh. Et au fait, il y a du lithium. Et donc, on trouve du lithium, notamment dans l'Allier. Et c'est ainsi que le groupe Imerys, un groupe français, a annoncé récemment qu'il ouvrirait une mine de lithium à l'horizon 2027-2028 dans l'Allier pour que la France puisse assumer une partie de sa production minière pour ne pas dépendre d'approvisionnements de pays qui ne sont pas forcément du même côté que nous sur le plan diplomatique, géopolitique.
Oui. Bonjour la ZAD, quand même, parce que quand on voit que pour faire une bassine...
On est en plein dedans et on est plein face à nos contradictions, d'ailleurs.
Est-ce que ces terres rares, elles sont apparues effectivement dans ce processus industriel il y a quelques dizaines d'années, etc., alors qu'on en parlait, sauf certains comme l'antimoine, assez peu avant, ou en tout cas pas de manière primordiale. Est-ce qu'on est condamné à utiliser ces terres rares, ou est-ce qu'on peut imaginer finalement que la science progresse, que les techniques progressent, et que finalement on puisse se passer de ces fameux terres rares?
Alors, on s'en passera pas. D'abord, on va continuer à en consommer beaucoup. L'Agence internationale de l'énergie nous annonce que la consommation et la production de terres rares vont être multipliées par 7 d'ici 2040, donc d'ici les 20 prochaines années. Donc en fait, on va avoir toujours davantage besoin de ces terres rares. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut substituer les terres rares par d'autres matériaux. Par exemple, les moteurs des voitures électriques seront bien évidemment pour la plupart d'entre eux faits à base de terres rares, parce que ça permet la légèreté du moteur, donc une plus grande autonomie de la voiture. Mm-hmm. Mais on voit des groupes, comme par exemple le groupe Renault, il y en aura d'autres à l'avenir, vouloir remplacer les moteurs à aimant à base de terres rares par des moteurs à base de rotors en cuivre. Et donc là, tout d'un coup, on règle le problème par un changement de technologie qui permet de ne pas avoir recours aux terres rares et de trouver des formes de substituts. Donc, on ne dépendra pas que des terres rares. Pour autant, on ne pourra pas s'en passer. Et donc, les terres rares, ça va rester, ça va rester très, très stratégique.
Eh bien, un éclairage fort intéressant. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci.
Guillaume Pitron, donc journaliste et auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, que vous trouverez aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Prix de la librairie de l'économie. Prix de Emmanuel Le Chip sur BFM Business.
Eh bien, tout est dit. Merci, Guillaume.
Merci à vous.
À très bientôt. Le CAC 40 qui progresse, lui, de 0,25%. On est à 7131 points. Et tout de suite, nous sommes mercredi. C'est l'heure de retrouver la sélection de BFM Patrimoine.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Et on a donc deux gérants, comme chaque semaine, Jean-François Gilles en plateau. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Pour Erasmus Gestion et en ligne avec nous depuis Fastea Capital, Thibaut François. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric, bonjour Jean-François.
Merci bonjour à tous Thibaut. Les deux d'être présents pour gérer cette sélection. Bon, d'abord le contexte général, là, le tremblement bancaire. Quelle impression ça vous donne, Jean-François, que la finance va s'en remettre, qu'il y a un problème bancaire, qu'il y a une crise financière. Comment voyez-vous les choses, vous ? On vous la fait pas, vous en avez vécu plusieurs des crises.
Oui, mais quand même, c'en est une, n'est-ce pas ? Et c'est bien dommage, en fait, que les régulateurs américains ne soient pas plus rigoureux et qu'ils aient entraîné les marchés financiers. Je crois à un moment, on n'en avait pas vraiment besoin parce qu'il y avait déjà de la part des banques centrales l'inflation à juguler. Si en même temps, ils se voient affublés d'un autre problème de taille, c'est ennuyeux, d'autant que la résolution de l'un est un peu contradictoire avec la résolution de l'autre.
Un petit peu, mais vous stigmatisez les États-Unis, mais enfin en Europe, on a notre Crédit Suisse aussi, on a eu le doute de
j'aurais
Bank
dû
également.
Rajouter, ouais. J'aurais dû rajouter la Suisse.
Ouais.
Par contre, faites attention, parce que Cédric, lorsque vous dites en Europe, vous pouvez inciter vos auditeurs à comprendre la BCE.
Ouais.
Elle n'y est pour rien.
Non.
Hein, la BNS est seule responsable de ce qui s'est passé au Crédit Suisse et c'est bien dommage.
Thibault, même gamme de questionnement. Vous imaginez quoi ? Qu'il y a un problème bancaire, qu'il y a une crise financière, que la finance va s'en sortir indemne ?
Oui, crise financière, crise bancaire, c'est sûr. Ça tend, on va dire, surtout ça crée un doute, on va dire, sur l'ensemble du secteur. Alors que Jean-François vient de l'expliquer. Les banques européennes sont quand même largement mieux armées que la plupart des autres banques mondiales, banques américaines aussi, inclus dans les banques mondiales. On sait qu'aux États-Unis, davantage qu'en Europe, on est quand même plus souple avec le secteur bancaire. Alors on tape très fort sur le secteur bancaire dès qu'il y a une crise. Donc on régule, on met des ratios de fonds propres extrêmement contraignants pour la plupart des banques. Et au fur et à mesure, dès que la crise s'éloigne, on assouplit les règles et on se retrouve avec d'autres crises financières un peu plus tard. C'est souvent comme ça aux États-Unis. Donc ça tape, ça assouplit, ça retape, et on s'aperçoit que la plupart des banques américaines, notamment les banques régionales, ont quand même des ratios de fonds propres qui sont beaucoup plus souples que la plupart des autres banques. Et donc, c'est une crise, et c'est surtout une crise, à mon avis, aujourd'hui, qui crée un doute dans l'esprit des investisseurs. Et on n'avait vraiment pas besoin de ça, effectivement, Jean-François l'indiquait à l'instant. Les banques centrales sont en train de remonter les taux. On espérait un ralentissement de la hausse des taux, et ça ne sera pas forcément le cas, on va dire, dans les prochaines semaines.
Bon, alors justement, tiens, penchons-nous sur ces banques centrales, parce que, comme par hasard, elles se réunissent alors que tout ça bouillonne. Ça a été le cas de la BCE la semaine dernière. Et malgré tout, contre certains qui l'exhortaient à ne faire que 25 points de base, elle est restée sur ce qu'elle avait dit et elle nous a fait 50 points de base. Là, ce soir, on attend la Réserve fédérale. Elle aussi nous avait peu ou prou dit « je ferai peut-être 50 points de base » parce que le discours, en tout cas, avait été très « hawkish », comme on dit, du côté de la colline du Capitole, hein, avec deux expressions simultanées au Sénat et à la Chambre des représentants pour Jerome Powell. Et puis là, on sent que ça doute un peu. Comment vous la voyez d'abord, cette Fed ?
Je pense que ce soir, on va avoir une hausse des taux limitée de 25 points de base. Je trouve, pour ma part, que la semaine dernière... Vous savez, les banquiers centraux sont généralement critiqués. C'est rare qu'on leur fasse des compliments. Je dirais que Madame Lagarde s'est très très bien débrouillée. Elle s'était engagée au mois de décembre à avoir deux hausses de 50 centimes en février et en mars. Elle s'était engagée pour cela en face des faucons, en disant aux faucons, en échange de ça, nous ne faisons pas la hausse de 75 points de base que vous souhaitez en décembre, mais vous en aurez donc 3 de suite de 50 centimes. Elle a tenu à la fois son engagement, ce qui veut dire qu'elle va être davantage respectée de la part des faucons, et d'autre part, elle a tenu, lors de la conférence de presse, un discours qui laisse à penser qu'il y a désormais au sein de la BCE une beaucoup plus large ouverture envers d'autres solutions que de futures hausses des taux si les circonstances des marchés l'imposent. Mmh. Ce soir, j'espère qu'il va en mettre pareil. J'espère qu'il va en mettre de même et que M. Powell va nous donner un discours qui sera aussi compréhensif et rassurant que celui qu'a délivré Mme Lagarde la semaine dernière. Voilà.
Mais malgré tout, s'il avait laissé entendre 50 et que finalement il fait 25, est-ce que les marchés ne vont pas se mettre à gamberger en se disant est-ce qu'il n'a pas des infos qu'on n'a pas ?
Non, je non. pense que bon. S'il fait 25 assorti d'un discours modéré...
Ça suffira.
Ça suffira pour dire... Bon, les banques centrales sont en alerte, elles ne vont pas faire n'importe quoi. Voilà.
Ces considérations monétaires, Thibault, vous les voyez comment ? Est-ce que il faut se dire on arrive vers la fin du cycle de hausse de taux ? Ça y est, peut-être plus spécifiquement, d'ailleurs, sur la Fed que sur la BCE.
Oui, sur la Fed, peut-être. Sur la BCE, je suis pas sûr qu'on ait vu vraiment la fin de la hausse des taux. Le discours va être extrêmement important de la Fed, comme il est important sur la BCE. Plus que les 0,25 ou les 0,5, je suis assez d'accord sur la partie argumentation. On s'aperçoit quand même que l'inflation est toujours présente. L'inflation est importante. On l'a vu encore ce matin avec le Royaume-Uni. L'inflation n'a pas une tendance baissière. On a vu aussi les commentaires du président de la Bond Bank qui confirme que 0,05 de hausse de taux sur la prochaine échéance. Est toujours envisagé. L'inflation est toujours présente, surtout sur la partie agroalimentaire, notamment on le voit dans les indices de prix. Donc pour l'instant, c'est le discours qui va être vraiment important. La hausse des taux, je pense qu'elle n'est pas finie sur la BCE. Peut-être un peu plus, on est un peu plus proche sur la partie Fed, mais on est quand même toujours sur une tendance haussière sur les taux, que ce soit à court terme ou à moyen terme.
Voilà donc, oui, c'est vrai que l'inflation n'est pas réglée pour autant. Enfin, on a toujours
le problème de l'inflation n'est pas du tout réglé.
La Banque de France est optimiste.
Je dirais qu'à mon avis, les États-Unis ont déjà fait des pas significatifs dans la lutte contre l'inflation et que ces pas portent leurs fruits. Alors évidemment, ça n'est pas terminé. Il ne faut pas baisser les bras trop vite parce qu'elles pourraient repartir de plus belle. En Europe, c'est un peu ambigu. En ce sens, et vous avez mentionné à juste titre l'agroalimentaire, la distribution agroalimentaire aussi, moi je suis frappé du fait que les entreprises concernées dans ces secteurs arrivent à monter leurs marges. Ce qui me fait dire que, en fait, elles montent les prix davantage que leurs coûts ne montent. Ça me pose un problème quand même quand on est dans une phase comme celle-ci économique.
Voilà donc quelques idées générales. Du coup, il faut quand même qu'on traduise tout ça, parce que c'est le but aussi de cette sélection qui se veut pédagogique en termes de gestion de portefeuille. Aujourd'hui, quand vous voyez notre sélection, Thibault, Jean-François, vous dites on est pas mal, on a bien fait bouger le portefeuille, ou il y a des idées qui vous titillent. Thibault, comment voyez-vous les choses sur la performance et sur la typologie ?
Bon, on est dans le marché pour l'instant, ouais. 10 points de hausse sur le CAC 40, 10 points pour le portefeuille, donc on est en phase. On a plutôt réinvesti ces dernières semaines, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à la semaine dernière. On a quelques titres qui ont été chahutés forcément avec la crise bancaire qu'on a eue depuis une dizaine de jours. On a Société Générale qui a fortement baissé depuis un mois, on est à moins 20 sur un mois. On a AED aussi qui a souffert sur le mois. Alors parce que
on rappelle, ALD, c'est de la location de voiture.
Exactement,
oui, mais c'est en même temps une filiale de la Société Générale.
Exactement, c'est une filiale de la Société Générale et c'est pour ça que ça a baissé aussi fortement. Donc on était autour de 13 euros, on est revenu en dessous de 10 euros sur ALD. Sachant qu'ALD va finaliser à la fin du mois de mars son acquisition. Il y a eu des cessions de filiales qui ont été annoncées aujourd'hui qui vont dans le sens de l'antitrust pour la finalisation de l'opération. On va avoir un peu plus d'indications en plus sur les synergies à attendre et les objectifs à attendre sur d'ici 2025 pour ALD et le groupe ALD. Donc je pense que c'est vraiment une bonne opportunité de rentrer sur le marché sur le dossier ALD qui baisse à mon avis pour de mauvaises raisons depuis quelques semaines. Donc le portefeuille tient bien et on a plutôt encore pas mal de potentiel sur les dossiers qu'on a en portefeuille.
Vous avez aussi une forme de confiance sur les marchés, sur les boîtes qui font le job, sur le fait qu'aujourd'hui, si on choisit une entreprise qui a un beau business model, qu'il n'y a pas de dette, etc., finalement, le marché peut progresser ?
Alors, sur les 6 prochains mois, j'attends pas vraiment de hausse significative du marché. Sur la fin de l'année, on peut l'espérer. On peut l'espérer notamment si on arrive à juguler l'inflation dont on parlait tout à l'heure. Mais pour le moment, ce que j'attends plutôt comme soutien au marché, ce sont des publications satisfaisantes pour le premier trimestre. Toutes les rencontres que nous avons avec les managements des entreprises en ce moment, enfin toutes, la plupart, 80% d'entre elles, sont largement positives. Le premier trimestre se passe bien. Je crois qu'on ne sera pas déçus sur les chiffres qui nous seront proposés de la mi-avril à la mi-mai, disons.
Et ça, c'est important.
Ça sera un élément rassurant, mais à mon avis, pas suffisant tant que l'inflation n'est pas vaincue pour tirer le marché beaucoup plus haut.
Vous vouliez aussi nous proposer un petit éclairage sur un autre titre qu'on détient, c'est GTT, Thibault.
Oui, bah, GTT, un petit peu dans le même esprit.
On est dans le GNL, on rappelle.
Ouais, un petit peu dans le même esprit qu'ALD. Elle a beaucoup souffert ces derniers mois. On les a rentrés un peu plus récemment sur le portefeuille. Ils sont en train d'accumuler des contrats depuis de nombreuses semaines. On a une très bonne visibilité sur cette entreprise de qualité. Une forte visibilité sur les 3 prochaines années. Donc c'est pas forcément seulement sur le prochain trimestre, mais on a une forte visibilité sur les 3 prochaines années. C'est un titre qui se paye sur des niveaux de prix qui sont extrêmement abordables aujourd'hui, avec une forte visibilité. Donc c'est vrai que ça, on va dire, cette crise bancaire laisse créer des opportunités sur des valeurs un petit peu en dehors de la cote, c'est-à-dire en dehors du CAC 40. Le CAC 40, je suis assez d'accord avec Jean-François. Je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup de potentiel sur les prochaines semaines sur le CAC 40. Mais par contre, en dehors du CAC 40, je pense qu'on peut aller chercher des vraies opportunités d'investissement. ALD en est une, GTT en est une autre.
Eh bien, voilà quelques idées. Oui, c'est vrai qu'on est surtout sur des large caps, quand même, ces temps-ci.
Oui, on est surtout sur des large caps.
Alors qu'il y a du retard sur le reste de la cote.
Il y a du retard sur le reste de la cote, mais pour que les investisseurs s'intéressent aux valeurs petites et moyennes, il faut que l'horizon soit quand même plus dégagé qu'il ne l'est aujourd'hui.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette sélection cette semaine. Donc Jean-François Gilles, Erasmus Gestion, et Thibault François qui nous répondait depuis Fastea Capital. On vous rappelle cette hausse de 10%. Hein. On va arrondir pour être un, c'est 9,96, donc on peut dire 10, je crois, sur cette sélection depuis le début de l'année. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour continuer à gérer cette sélection. Dans un instant, c'est Sandra Gandoin et 90 Minutes Business qui vous accompagnent. Bonjour Sandra.
Bonjour. Bonjour Cédric.
Que nous avez-vous proposé aujourd'hui ?
Eh bien, on va attendre un petit peu ce que va dire la Fed dans la soirée, savoir si la Fed continue à augmenter ses taux pour lutter contre l'inflation ou si elle arrête cette politique de hausse pour permettre au secteur bancaire de souffler. On en parlera avec Jean-Marc Daniel et Antoine Larry-Gaudry. On reviendra aussi sur la loi d'escrozaille qui pourrait être votée cet après-midi. On va parler innovation, recherche avec un projet solaire, des vitres qui font panneaux solaires et qui pourraient fournir de l'énergie. On va parler recherche et innovation donc avec notre invité Frédéric Sauvage. Et puis on reviendra sur le rapport de l'ONU sur l'eau qui a été publié hier, qui est extrêmement alarmant. On y reviendra dans notre débat à 12h45.
À suivre dans un instant donc 90 minutes business. Le marché parisien lui reste en hausse. On n'est même pas loin des plus hauts du jour. Plus 0,33%, 7136 points tirés notamment par les valeurs bancaires, puisque parmi les plus fortes hausses on trouve Soggen ou encore Crédit Agricole. L'Eurodoll est à 1,0785. Demain, c'est Stéphane Pedrazzi qui vous accompagne dès 10h pour un nouveau numéro de BFM Patrimoine. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi matin. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.